Hello, bienvenue dans ce nouvel audio dédié cette fois-ci à la rose et surtout à la rose mystique. Alors, comme je vous le disais pour introduire cet audio, la rose c'est un peu la plus mystique de toutes les fleurs. Quand on se connecte à son essence, on sent son aura magique, mystique et à plusieurs dimensions, des dimensions qui sont complexes, qui se complètent aussi et qui ont traversé le temps, mais qui surtout se sont révélées, notamment au Moyen-Âge. Alors, si on s'intéresse au début de la mystique de la rose, on retrouve toujours à nouveau les mêmes prêtresses que sont les prêtresses antiques et notamment les prêtresses d'Isis. C'est comme un fil initiatique ancien et discret qu'est la mystique de la rose mystique, et la rose semble remonter jusqu'aux origines même des mirophores. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, Isis n'est pas du tout à l'origine une déesse de la rose à proprement parler. En effet, la rose ne sera cultivée que beaucoup plus tard dans le monde égyptien, donc par rapport à la cosmologie, à la cosmogonie en fait, d'Isis, la rose va apparaître plus tard. Alors, on peut se demander, mais si Isis n'a pas vraiment rencontré la rose en Égypte, pourquoi est-ce qu'elle colle autant à sa peau? Eh bien, leur lien est uniquement symbolique. Et la rose deviendra ce sceau occidental des attributs isiaques beaucoup plus tardivement encore. Regardons Isis. Isis, c'est une déesse aux plusieurs identités. En fait, on l'appelle même la déesse aux mille noms. Elle est notamment la mère, la magicienne, mais aussi la pleureuse, la ressusciteuse, comme on l'a vu, et la gardienne du nom secret. Hein. Entre autres, on ne va pas parler des mille noms. Et la rose concentre exactement ces fonctions-là que je viens de citer. Par exemple, Isis recompose le corps d'Osiris et lui redonne vie et fertilité. Et la rose, dans toutes les traditions, naît de la blessure. Donc elle est associée très fortement au sang. En plus, elle fait couler le sang avec ses épines. Et elle unit à la fois la beauté, mais aussi la douleur, la fleur avec l'épine. La rose, en fait, c'est un corps blessé qui fleurit. Et c'est vraiment une image parfaite de l'acte isiaque en lui-même. Autre point commun, Isis est celle qui agit dans le secret, hein, derrière le voile, on parle du voile d'Isis pour cacher toute chose, et notamment les initiations. Et la rose devient très tôt aussi le symbole en fait du secret initiatique. Et on a même cette formule plus tardive, en latin, qui s'appelle sub rosa ou sub rosa, qui veut dire sous la rose, c'est-à-dire sous le sceau du secret. Quand le culte d'Isis se diffusera dans le monde plus tardif hellénistique et puis encore plus tard romain, Isis va être assimilée avec d'autres déesses que sont Aphrodite, Déméter et même parfois Vénus. C'est à cette époque-là, romaine, que la rose deviendra vraiment l'emblème d'Isis. On la retrouve surtout dans le livre L'Âne d'Or, écrit par Apulée, hein, qui a vécu dans les années 125-170 après Jésus-Christ, à l'époque romaine, où la déesse Isis apparaît pour transformer l'âne, qui était en fait un homme qui avait mis un onguent et qui avait été transformé ainsi par une sorcière en âne. Et elle va le sauver à l'aide d'une couronne de roses qui est tombée sur le chemin de l'âne, en fait, après une procession rituelique des prêtres d'Isis qui allaient vers la mer. Et il va voir une vision d'Isis, elle-même couverte de fleurs et de beaucoup, beaucoup d'autres symboles, et le héros va devenir à son tour un prêtre de la déesse. Et là non plus, on n'a pas le droit exactement à toutes les initiations qu'il va traverser. Il va garder le secret comme bien souvent. Dans cette histoire, on voit bien que la rose ici est l'agent en fait de la restauration de l'âme. Et les prêtresses d'Isis sont aussi nommées les femmes de la rose. Comme nous l'avons déjà vu, hein, elles étaient initiées à des rites secrets, mais elles étaient aussi les gardiennes de certaines formules, de certains gestes, de silence. On a vu, hein, c'est des gardiennes de seuil, des médiatrices entre les mondes visibles et invisibles, et toujours liées aux parfums, aux onguents, et comme on le voit ici, aux couronnes de fleurs. Leur fonction, nous l'avons vu dans l'audio, hein, qui était dédié justement aux prêtresses. Leur fonction était opératoire et magique, ce qui s'arrêtera plus tard au niveau des myrophores. Dans les temples isiaques, on utilisait justement des couronnes florales et des huiles parfumées, et des bains aussi, pour des rites qui se passaient la nuit, hein, des rites nocturnes. Notamment dans les bains, ils devenaient d'autant plus puissants qu'en fait ils reflétaient le signe de la nuit. C'est comme si en fait les étoiles et la lune atterrissaient en fait dans la surface de l'eau, et c'est comme si l'eau imbibait la dimension cosmique dans laquelle ensuite elle se baignait avec les fleurs et les parfums. Donc la rose, en concentrant à la fois le parfum mais aussi le cycle de vie mort vie de fleurs fruits, parce que la rose c'est un buisson qui revient, qui refleurit d'année en année, mais qui a l'impression, comme pour les arbres, de mourir en hiver. Donc le parfum, le cycle, la centralité du cœur, hein, parce que on voit c'est une spirale parfaite qui arrive avec le cœur de la fleur, et aussi la protection par la dimension des épines, et bien tous ces symboles-là vont faire qu'elle va devenir petit à petit le sceau en fait du cercle initiatique féminin lui-même. Lorsque les prêtresses d'Isis disparurent à la fermeture des cultes d'Isis, c'est-à-dire c'était 4e, 5e siècle, eh bien, leurs symboles vont leur survivre. Si elles quittèrent bel et bien les temples, ces symboles-là, en fait, font que ça ne quitte pas finalement les femmes. La rose va passer des rites au jardin domestique, comme la femme va passer des temples à cette magie domestique justement. Et du coup, les femmes vont devenir les héritières de la mystique de la rose. C'est dans ce champ privé et discret qui finalement appartient déjà aux prêtresses qu'elles vont devenir les héritières des guérisseuses. Elles vont rester aussi les pleureuses, hein, les lamentations vont rester longtemps dans la pratique. Et voilà, on obtient finalement peu à peu nos fameuses myrophores. À chaque fois, la rose nous dit que finalement, le savoir est vivant. C'est ça vraiment, pour moi, la sagesse de la rose, par justement son aspect cyclique, par son parfum tellement fort, c'est de vivre les choses. C'est vraiment le savoir qui est l'expérience. On va le retrouver avec l'image de la Sophia. Et c'est pour ça que on ne peut pas la connaître si on ne la rencontre pas directement. Si on n'est pas vraiment en train de la humer, en train de soigner un rosier par exemple. En tout cas, voilà, c'est vraiment une chose qui est liée à la sagesse de la rose. C'est cette connexion avec l'expérience de la sensation, et on peut le retrouver avec du coup les parfums, les élixirs, bien entendu les huiles essentielles, même si elles sont chères, et forcément les eaux florales aussi. En tout cas, pour cette partie, une chose est certaine, Isis n'est pas celle qui a apporté la rose. Elle ne lui a pas donné vie, elle ne l'a pas créée. Mais par contre, la rose est bel et bien née des traces laissées par Isis. Et peu à peu apparaît sur notre fil, là, une lignée. Donc oui, Isis va être associée à la rose au temps romain tardif. Et de même, c'est au Moyen-Âge que Marie-Madeleine sera explicitement associée à la rose aussi. Donc à chaque fois, que ce soit Isis ou Marie-Madeleine, ce sera a posteriori de leur vie. C'est un peu comme un secret transmis de femme à femme, hein, où la rose devient un signe en fait de leur présence discrète, comme si en fait elle allait fleurir après que elles aient laissé leurs traces de pas. On peut imaginer des pas dans la neige et ces pas qui se transforment en belles roses blanches. C'est un petit peu ça en fait, l'association de la rose avec nos trois grandes mirophores. Et elle va grandir de plus en plus, donc vraiment on l'a vu tardivement dans l'Empire romain, au moment où le culte d'Isis est interdit, et on va vraiment la voir fleurir avec abondance dans les cloîtres, sur les vitraux, dans la poésie aussi, et en particulier dans l'alchimie, tout ça, on va en parler dans cet audio. Mais je voudrais revenir sur ces traces, et globalement, plus collectivement, ces traces de femmes, en regardant cette lignée-là, les figures en fait qui ont hérité de la rose. Donc Isis, Marie-Madeleine, hein, comme je l'ai dit a posteriori, mais il y a aussi Morgane le Fay, Marie ou encore Sophia. Et ici, je n'ai pas envie de faire une addition de figures les unes à propos des autres, de reconstruire une lignée continue dans le temps historique l'une après l'autre, mais bien une espèce de corps symbolique unique qui va changer de visage selon les époques. C'est-à-dire que pour moi, tel que je vois les choses, ce ne sont pas des figures séparées les unes des autres, elles sont plutôt des métamorphoses ou des métaphores même, d'un même principe féminin qui est rendu tantôt visible, tantôt dissible et tantôt tolérable. Même si Isis et ses prêtresses marquent bel et bien le point de départ de cette lignée-là, comme je l'ai dit, on ne progressera pas vraiment en ligne droite, mais plutôt en spirale, qui est ô combien plus féminine, hein, pour pouvoir comprendre le rapport à la rose commun. Et j'ai envie de commencer cette lignée-là avec la souveraineté du féminin qui est voilé. Avant les noms, avant que l'on pose un verbe sur quelque chose, il y a une fonction qui semble ici toujours la même et qui détient un savoir vital. Ce savoir, je l'ai dit, pour moi, c'est celui qui est lié à l'expérience, au savoir dans l'expérience. Mais il y a aussi toujours une même autre donnée. C'est un savoir transmis derrière le voile, sans jamais l'exposer. Avec la rose, il y a, avec les mirophores aussi, cette dimension de mystère. Cette dimension de savoir qui unit le corps, l'âme et l'esprit, qui enseigne discrètement sur la mort, mais aussi sur l'amour, qui est bien différent de l'attachement, attention. Et c'est cette fonction-là, finalement, que chaque figure que je vous propose de voir avec moi, incarne à sa manière. Alors retournons très rapidement à Isis qui est la source, parce que Isis, ça va être finalement la matrice qui connaît le nom secret, qui rassemble les morceaux, qui ressuscite, mais qui ne le fait jamais pour régner. Donc elle agit par magie selon une loi cosmique et invisible qui n'est pas celle des humains. Et il y a justement cette idée de traverser le voile pour aller accéder à cette loi cosmique-là qui n'est pas du tout l'institution. Le pouvoir humain institutionnel, nous l'avons vu, n'intéresse pas du tout Isis, ça ne l'intéresse pas. Elle est prêtresse, épouse et mère et elle est en fait souveraine dans sa souveraineté sans commander. Mais elle est souveraine dans ses actes opératoires magiques. La rose, plus tard, sera son voile floral, comme un sceau vivant qui lui appartiendra, en fait, qui la remplacera finalement, quand Isis ne pourra plus être nommée. Là où le féminin initiatique, en fait, devra seulement être toléré sous une forme symbolique, eh bien c'est là que la rose va surgir. Donc, elle surgit a posteriori. Maintenant, explorons Marie, mère de Jésus, la Vierge, qui est une autre grande figure très très reliée à la rose. En fait, si je suis revenue à Isis avant de parler de Marie, c'est parce que finalement Marie, c'est un peu Isis rendue acceptable. Pourquoi ? Parce que Marie, c'est une mère sans sexualité. Elle est faite de pureté, sans la chair qui désire. Ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, elle va être aussi obéissante à la loi. Elle est discrète. Et surtout, elle est obéissante dans le sens où elle ne va pas opérer de magie visible, en tout cas dans les textes. Et c'est pour ça qu'elle deviendra la Rosa Mystica, la rose mystique. Parce qu'en fait, Marie, c'est une rose close, issue d'une matrice intacte. Elle ne se montre pas, elle ne proclame pas. Mais elle garde quand même tout son pouvoir de gestation. Mais elle ne possède plus cette espèce de souveraineté initiatique, cette souveraineté isiaque de la magie, en tout cas, toujours selon les textes. Parce que les vierges noires vont nous rappeler quelque chose ici, que le noir n'a jamais disparu. Et sans pouvoir vraiment entrer dans les détails dans cet audio, parce que je veux vraiment rester sur la rose et la lignée de la rose, je pense que Marie a hérité d'une place importante dans la religion parce que on a un petit peu modifié, je crois, son histoire, ou alors elle était tellement discrète que c'est vraiment passé un petit peu à côté. Et pour moi, cette figure douce, de transcendante, obéissante, à l'ordre et surtout très très pure, quand on se connecte un petit peu Marie, qu'on travaille avec elle, eh bien ça fait un petit peu grincer des dents. Et c'est pour ça qu'il y a cette vierge noire pour la complémenter, parce que je pense que c'était nécessaire pour pouvoir saisir en fait les dimensions mystiques lorsqu'on se relie à Marie. C'est pas du tout ce vase vide qui est bien gentil, bien obéissant et qui est juste en attente que le divin vienne planter sa graine en elle. Pour moi, oui, Marie permet de résoudre enfin l'équation que ne supportaient pas les prêtres des temples, c'est-à-dire que ici, contrairement aux prêtresses antiques, hein, qui vont continuer d'opérer dans ce contexte-là, hein, à l'époque de Jésus, hein, et il faut voir que ce berceau de la chrétienté est entouré par des régions autour d'elle qui pratiquent encore la magie des prêtresses antiques. Il y a encore beaucoup de prêtresses dans les temples. Et ici, on va avoir ce féminin qui est pur, qui n'est pas du tout opérant. On laisse l'opération divine dans les temples. Elle ne, quelque part, pour les prêtres, ce n'est plus une usurpatrice du sacré. Mais voilà, de mon côté, à moi, de façon très très personnelle, je pense que Marie était aussi une très grande magicienne opérante. Soit ça a été totalement voilé, soit elle l'a fait de façon tellement secrète que ce n'est pas apparu dans les textes, mais elle a vraiment la dimension d'une initiatrice. Et vraiment, comme je le disais, c'est pas simplement une fillette de 12 ans qui est un peu naïve et qui tombe enceinte du Fils de Dieu. Pour moi, c'est quelqu'un qui a travaillé suffisamment à lier son corps et son âme pour pouvoir donner naissance à Jésus. C'est quelqu'un qui a opéré, quelqu'un qui a agi dans le sens de s'unir elle-même au sacré. Et je pense que vraiment le voile a été déposé sur cette figure, mais plutôt dans une inversion complète que ce qui est arrivé a posteriori à Marie-Madeleine. Donc pas du tout une diabolisation, mais vraiment une purification tellement forte qu'elle en a perdu finalement ses rôles fondateurs. Et je pense que Marie, la Vierge Marie, a été clairement l'une des grandes initiatrices de Marie-Madeleine. Clairement, pour moi, elle était son élève. Voilà. D'ailleurs, pour Marie-Madeleine, si on peut voir Marie la Vierge comme une rose à la matrice intacte, c'est-à-dire une rose close, fermée, eh bien, on a l'opposé avec la figure de Marie-Madeleine, qui est plutôt une rose ouverte. Elle est la contrepartie nécessaire à Marie, tout comme les Vierges Noires, hein. Et Marie-Madeleine, eh ben, c'est celle qui aime, c'est celle qui touche, c'est celle qui pleure, c'est celle qui mène l'onction même quand ça ne lui est pas demandé. C'est celle aussi qui reconnaît. Elle est dans cette dimension-là du rouge, du parfumé, mais aussi du blessé, et dans une grande lucidité qui fait que cette figure est souvent rattachée à la phase rubédo de l'alchimie, et qu'elle va incarner totalement. Donc, dans certaines traditions ésotériques, c'est pour ça que l'on va associer Marie la mère au bouton de rose, hein, clos, fermé, et à Marie-Madeleine la fleur ouverte. Et ça, c'est uniquement finalement deux moments, mais qui correspondent à un même mystère. Maintenant, passons à Sophia, qui, elle, va incarner finalement un troisième type de rose, c'est la rose de la connaissance. Sophia, c'est le visage cosmique de cette lignée. C'est la sagesse incarnée, c'est-à-dire la connaissance par l'expérience. Un des grands enseignements de la rose, hein, si jamais vous vous connectez à elle. Voilà, c'est une des parties de ce qu'elle peut vous enseigner. Elle est aussi la part de féminité du logos. Parfois, c'est la contrepartie, en fait, hein, du dieu source créateur, Sophia. Et comme de nombreuses déesses féminines qui parlent aussi d'initiation, hein, comme Perséphone, Inanna ou Ishtar, eh ben, Sophia incarne aussi la chute et la remontée, un peu cycliquement là aussi de vie, mort, vie. Si on regarde par rapport à la source isiaque, on a finalement la rose Sophia qui pourrait être la part métaphysique d'Isis. Et on pourrait voir, si on fait ce même parallèle, que Marie-Madeleine, c'est un petit peu plutôt la face historique d'Isis. Et du coup, la rose, elle devient vraiment l'Isis au plan symbolique. Maintenant, regardons Morgane. Elle va vraiment plutôt incarner la rose sauvage. Donc, Morgane, elle va incarner le pôle indompté de cette lignée féminine. Elle est la grande prêtresse de l'île voilée, mais aussi une des plus grandes guérisseuses de toutes les époques. C'est la grande magicienne. Elle est capable de se transformer en animaux de shape-shifter, comme on dit, et en particulier en son animal favori, qui est la corneille. Donc, elle aussi, elle est magicienne, comme Isis, et initiatrice, parce qu'elle fait passer vers l'autre monde. Hein. Elle articule les mondes. Et cet autre monde-là, on l'a vu, c'est Avalon, l'île des pommes, les pommes qui vont nous raccrocher à Vénus, on va le voir. Et sur cette île-là, il y a aussi une sphère qui échappe au contrôle des hommes et de leurs lois, de leurs institutions, qui peut être vue comme l'équivalent celtique en fait, des mystères isiaques. C'est-à-dire que les lois ne rentraient pas dans les temples isiaques, et Avalon échappe totalement aussi aux commanditaires, aux commandants, aux armées, voilà, elle est voilée. Et on peut donc voir Morgane le Fay comme cette rose-là qui n'est pas cultivée, mais qui peut être trouvée dans les champs, qui peut être trouvée aux bordures de forêts. Elle est vraiment celle qui pousse en dehors des sentiers battus, celle qui pousse hors du jardin chrétien, du jardin civilisateur que va incarner le roi Arthur, et c'est pour ça qu'elle va être à ce point diabolisée, parfois même encore plus que notre chère Marie-Madeleine. Donc, on voit bien ici que le motif de la rose s'adapte à travers toutes ces mirophores-là. La rose, c'est vraiment leur symbole commun. Isis, c'est la rose voilée, Marie, la rose close, Marie-Madeleine, la rose ouverte, Sophia, la rose cosmique, on dit aussi la rose de lumière, et Morgane, vraiment la rose sauvage et indoptée. Et je voudrais même rajouter ici, on en a parlé très très rapidement, mais la Vierge Noire, qui devient alors la rose souterraine, la rose de l'ombre, et je pense que quand on parle des femmes, des mirophores, et de cette incarnation qu'elles ont du cycle de vie, mort, vie, on a besoin de la rose d'ombre. La rose, on peut le voir ici se dessiner du fait qu'elle n'appartient à aucune de ces femmes seulement. Et c'est ça vraiment que je voudrais pointer ici dans cet audio, s'il y a une chose à retenir, c'est bien ça, c'est que la rose, elle va plutôt apparaître comme un corps initiatique collectif, un symbole collectif, qui est transmis de femme à femme, parfois à quelques hommes marginaux, tels que les alchimistes ou les poètes, mais qui est dans le collectif, qui est accessible par le collectif, alors que les temples tomberont et que la rose va rentrer dans les cloîtres et leurs jardins, elle va devenir cette icône-là de, oui, la poésie, l'alchimie, parce que c'est les hommes qui vont ainsi la diffuser, mais surtout, elle deviendra en fait le temple portatif du féminin sacré. Je répète, le temple portatif du féminin sacré. C'est-à-dire que c'est un temple que les institutions n'ont pas voulu garder incarné. Il a été interdit. Eh bien, ce n'est pas grave. La rose va en fait être le support d'un temple qui va se répandre de femme à femme dans le collectif féminin, notamment qui va être porté par les mirophores et qui ne va pas avoir de lieu racine. C'est comme un temple d'âme accessible de cœur à cœur. Et si la rose devient ce temple portatif du féminin sacré, eh bien cette lignée, elle, va survivre dans les contes, les légendes. À nouveau, elle a cette dimension où elle se cache. Mais à nouveau, elle n'est pas interdite. L'accès n'est pas barré. En fait, elle est cachée, mais elle est accessible par absolument n'importe qui souhaiterait aller à sa rencontre. Avançons encore dans le temps maintenant et arrivons à l'époque du Moyen-Âge avec la rose alchimique médiévale qui va encore aller plus loin dans le symbolisme, qui va encore vraiment aller chercher l'essence même de chaque couleur de rose, de chaque figure dans leur relation avec la rose. Cette partie du symbole de la rose, c'est vraiment une grande incontournable parce que elle est l'un des symboles les plus denses jamais produits par l'Occident. Elle est à la fois une fleur, un sceau, un corps, un secret et un accomplissement. C'est pas simplement une fleur, hein, c'est une opératrice. En alchimie médiévale, la rose n'est donc jamais décorative. Dès qu'elle apparaît, il y a ce vivant qui apparaît, cette magie, cette opération, le grand œuvre, hein, cette œuvre-là, ce processus. Elle concentre en elle l'idée du centre, comme on l'a vu, l'idée du cercle et du cycle, mais aussi de multiplicité unifiée. En fait, la rose, c'est vraiment cette image-là du grand œuvre qui a été menée jusqu'à son accomplissement, mais vraiment vue du côté du vivant qui se produit à la rencontre du monde, pas simplement dans le laboratoire, dans la solitude et dans l'étude. Chez les alchimistes médiévaux, on ne retrouve presque jamais cette Isis antique, en tout cas de façon très explicite. Ils vont parler de certaines femmes sous la forme de Mater, c'est-à-dire la mère, de Virgo, la Vierge, de la Sophia, ou de la Regina, donc la reine. Comme je vous le disais, il semble que la rose, sous sa forme Rosa Mystica, devienne le nom à chrétien acceptable, la figure enfin acceptable de cette même puissance féminine que représentent les figures d'Isis, Marie-Madeleine ou les mirophores initiatrices en général. C'est un peu comme si là où Isis portait le voile, eh bien la rose va porter ses pétales. Et en alchimie, on va retrouver plusieurs phases avec plusieurs couleurs. Là aussi, je vais aller très vite. Les alchimistes vont se servir des roses, en fait, pour pouvoir transmettre, pas tellement transmettre, c'est pas le bon mot, pour pouvoir comprendre eux-mêmes leur savoir, leur processus, et en discuter, mais toujours dans des sphères un peu privées entre alchimistes, et pas tellement pour pouvoir vraiment le transmettre au public. Donc, on commence avec la phase au noir et la rose noire hein, qui correspondent à la rose close, donc à la figure de Marie la Vierge. C'est vraiment le bouton de rose avant son éclosion. Donc, c'est une phase sombre, une phase d'intériorisation qui est appelée nigredo et à laquelle on associe d'ailleurs très souvent les Vierges noires, un petit peu moins la Vierge Marie elle-même. Elle interviendra un petit peu plus tard, mais il y a vraiment cette idée de rose close quand même, donc cette articulation entre la Vierge Marie et la Vierge Noire qui ensemble donne un petit peu plus une idée de ce qu'est la véritable Marie et de ce qu'est la véritable Nigredo. C'est une phase de putréfaction, une phase de silence, une phase de nuit, mais pas vide. C'est une nuit, mais une nuit féconde. C'est un silence, mais un silence plein. Il se passe des choses. C'est vraiment comme l'humus de la matière dans le bois. Vous savez, les senteurs chargées, là, cette terre qui est chargée de vie, qui est pourtant très, très noire. Le bouton de la rose, si on revient à ce symbole, est déjà une rose. Mais elle n'est tout simplement pas encore visible. Et c'est ça, vraiment, l'essence de la Nigredo, c'est-à-dire que cette matière noire, cet humus de forêt, est plein de richesses, plein de potentiel, mais on ne le voit pas encore. Mais on sait très bien qu'il va être très très nourricier, que ça va très très bien pousser, mais si on le tient dans les mains, on n'a pas encore ce qui a poussé dessus. C'est vraiment un potentiel. Ensuite, on a la phase rouge et sa rose rouge, donc la rose ouverte, donc Marie-Madeleine. Et souvent, Marie-Madeleine au Moyen-Âge va être associée avec cette rose rouge. Et ça va correspondre à la phase rubedo de l'alchimie. C'est la phase du mariage alchimique qui conjugue les opposés, qui maîtrise le feu transformateur et qui transfigure la chair. En fait, la Nigredo, c'est la toute première étape. Et la rubedo, c'est la toute dernière étape. C'est vraiment la fin de tout le processus et c'est pourquoi la rose rouge est vraiment centrale dans tous les manuscrits hermétiques, dans la poésie courtoise aussi de l'époque et même dans l'emblème des rosicruciens. Finalement, on a aussi une troisième phase, portée par la rose blanche, qui est la rose de la pureté, de la clarté, du souffle aussi, et elle correspond à la phase d'albédo, c'est-à-dire de grand nettoyage. Une autre phase et une autre rose souvent implicite, c'est la rose d'or et la phase jaune qui correspond en fait à l'articulation entre l'albédo et la rubédo, donc entre la phase de purification et la phase d'accomplissement en fait. Et elle s'appelle la citrinitas. C'est une phase de rayonnement, d'incorruptibilité et souvent associée avec la présence souveraine, la reine. Aucune des figures archétypales de la lignée des Mirophores ne rassemble à elle toute seule toutes les phases. On a plutôt la Vierge Marie pure, la Rosa Mystica blanche, les Vierges noires, les Roses noires, Marie-Madeleine avec la Rose rouge de la Renaissance aussi. Par contre, l'élément commun de toutes ces phases, c'est encore là aussi la rose. En fait, j'ai traversé les phases alchimiques parce que c'est pas tellement chaque phase qui nous importe ici, mais c'est de voir que la rose mystique est la rose qui va contenir toutes les couleurs simultanément. Elle est un et multiple en même temps. Une rose contient toutes les couleurs alchimiques de toutes les autres roses. En fait, la rose apparaît comme le corps alchimique. C'est une fleur organique, bien sûr, qui se nourrit de la terre, donc de la Nigredo, qui peut blesser avec ses épines et faire surgir le sang, la rubedo. Et comme c'est un arbuste, elle meurt et revient chaque année, donc c'est un cycle à chaque fois. En psychanalyse, c'est-à-dire la psychologie des profondeurs de notre cher psychiatre Dr Jung, qui est vraiment basé sur l'alchimie, il a fait une étude symbolique sur l'alchimie assez poussée et très enrichissante, eh bien il y a cette idée qu'on ne traverse pas qu'une fois toutes les phases et c'est fini dans le processus d'accomplissement de soi. En fait, on y va, on y goûte, on y retourne, on devient de plus en plus parfait dans chaque phase, on la comprend de mieux en mieux, mais on y retourne, c'est ce cycle-là qui revient. Et ce cycle-là de vie-mort-vie, c'est aussi ce qui rattache puissamment le féminin et l'alchimie. Et la rose, parce qu'on pourrait voir, oui, l'alchimie comme une tentative d'expliquer finalement ce phénomène absolument mystérieux et initiatique que guidaient les femmes à l'époque. Ces femmes qui étaient détentrices du portail de naissance par la gestation, mais aussi du portail de renaissance par l'initiation des gestes secrets. Et l'alchimie, c'est vraiment ça, c'est le processus de renaissance. Et donc la rose, c'est ce corps féminin alchimique. En tout cas, c'est vraiment le symbole qu'elle va concentrer en elle à partir du Moyen-Âge. Et les alchimistes vont parler d'elle sous des termes de corpus glorificatum, c'est-à-dire corps de gloire, ou de corpus subtile, c'est-à-dire de corps subtil, mais à chaque fois ce sera cette rose-là. Et en tant que sub-rosa, comme je vous l'avais dit, hein, la rose secrète, la rose représente bien cette idée de renaissance secrète, qui ne doit pas être dévoilée trop tôt. Et là, c'est pas une question de, on veut séparer d'un côté les non-initiés et les initiés, mais c'est plus parce que ce processus-là doit être fait derrière le voile. Parce que s'il est propagé trop tôt, eh bien, il va perdre de sa puissance. Il ne peut pas atteindre pleinement la rubédo s'il est montré à la lumière trop tôt. Et c'est ça aussi le secret de l'initiation. C'est que si le monde commence à intervenir, si on laisse la porosité entre les deux toucher l'un et l'autre, eh bien, tout s'arrête. L'initiation s'arrête, tout simplement parce que la lumière du monde l'a touchée. C'est pas tout simplement on veut garder le secret parce que on est meilleur que les autres, parce que, voilà, pour plein d'autres raisons, pour pas que ça tombe dans de mauvaises mains, c'est surtout parce que la lumière du monde interrompt le processus. Et ça, on le voit avec l'alchimie, alors qu'on ne pouvait pas le savoir avant, avec les prêtresses initiatiques. Parce que, tout simplement, à l'époque, ils gardaient encore tout cela secret. Finalement, c'est la même renaissance qui a lieu dans les initiations antiques ou dans l'initiation telle que décrite par l'alchimie. C'est la même chose. Et en fait, on obtient le savoir de ce qui se passait dans l'initiation quand on regarde les écrits des alchimiques, même si ils ont quand même essayé de rendre ça difficile parce qu'il y avait toujours cette idée-là de finalement garder le secret, de ne le révéler que finalement à celui qui est prêt. C'est un petit peu comme le nom de Ra qui a été volé par Isis. Profondément dans cette histoire-là, ça signifie que le nom n'est révélé seulement à celle ou celui qui est prêt. Pour pas qu'il n'y ait d'interférence, finalement. Et pour en revenir au traité d'alchimie, ça parle toujours de femmes, finalement. Que ce soit la reine cachée, la femme voilée, la dame rouge, la vierge noire. Mais ce ne sont pas que des métaphores abstraites utilisées n'importe comment. Elles renvoient toujours à une expérience intérieure réelle qui sont souvent guidées par des femmes hors institution, comme à l'époque. Et la rose, c'est leur sceau discret, c'est leur signe de ralliement. Et tout autant qu'elles sont ce corpus-là, elles sont la rose en devenant le lieu où elle peut se permettre d'éclore, où le processus peut avoir lieu. C'est-à-dire, par là, ce que je veux dire, en alchimie, on a cette idée du vase clos où se déroule le processus. Et finalement, en incarnant la rose, elles incarnent aussi ce vase qui va faire éclore le processus. Donc, tout comme les flacons qui conservent les parfums, les mirophores vont être à la fois le flacon et la rose, le contenant et le contenu. Et c'est ce qu'on retrouve exactement dans la légende du Graal et c'est ce que nous verrons un petit peu plus tard dans notre atelier. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à très vite pour la suite.